Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières, ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.
Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, comment regardons-nous le monde ? Dans ce passage de l'Évangile, Jésus nous invite à bien regarder, parce qu'il y a 2 manières très différentes de regarder. Regarder à partir de ce qui est riche, beau, brillant, ou simplement normal, c'est ce à quoi nous invitent la publicité et les médias. Et situer tout le reste en comparaison de cette normalité, ou bien regarder à partir de ce qui est pauvre, petit, faible, caché, malade. Et c'est ce à quoi nous invite l'Évangile de ce jour. Alors la question qui nous est posée ce matin, à partir de ce texte, c'est: est-ce que j'accepte de réfléchir et d'agir à partir du plus pauvre ? Ou est-ce que je vais continuer à regarder le monde d'en haut, avec un regard extérieur, surplombant ? En regardant simplement cette femme de l'Évangile, eh bien, demandons à entrer simplement dans le regard de Jésus. Le petit épisode que nous avons entendu dans l'Évangile se situe dans le temple de Jérusalem, 2 jours avant la fête de Pâques, c'est-à-dire très peu de temps avant la mort de Jésus. La tension est donc à son comble. On cherche à l'arrêter pour le mettre à mort. Et les discussions avec les scribes et les anciens, qui sont surpris de voir Jésus dans le temple et qui y voient une provocation, les discussions sont très rudes. Mais le Seigneur continue pourtant à porter la parole au cœur de ce temple, qui est le cœur de la vie d'Israël, le cœur de son système politico-religieux qui domine le pays et le peuple. Plus qu'une provocation, cette présence de Jésus est un jugement. C'est une mise au clair de la réalité. Il y a les apparences, des scribes, des grands spécialistes des textes religieux. Il y a des gens qui prient longuement et des riches, nombreux, certains qui mettent l'argent discrètement dans le tronc, mais d'autres qui jettent beaucoup d'argent dans le trésor, ostensiblement, pour se faire remarquer. Et puis il y a cette pauvre veuve qui jette 2 piécettes, 2 petites pièces de quelques centimes, des pièces ridicules qui ne seront guère utiles pour poursuivre la construction de ce grand temple. Et il y a la réalité, des scribes pleins de leur science, qui aiment se faire remarquer, qui aiment avoir droit aux honneurs. Ces personnes font en sorte qu'on les remarque, et par derrière, ce sont des gens qui dévorent les biens des veuves, nous dit Jésus. Cette pauvre veuve, elle, a jeté tout ce qu'elle avait de son indigence, toute sa vie, nous dit saint Marc. Voilà donc ces réalités diverses que Jésus peut observer ce jour-là dans le temple. Et le Seigneur ne prononce pas de jugement, il ne prononce pas de condamnation, il n'attribue pas de récompense. Non, il ne fait que révéler le fond des choses, ou plutôt le fond des cœurs, et il fait la lumière. Parce que le jugement de fait est opéré par les gens eux-mêmes, par les actes qu'ils posent. Et s'il y a condamnation, elle n'est pas le fait de Jésus, mais elle est reportée dans le futur. Ils recevront un surplus de condamnation. Autrement dit, c'est Dieu seul qui, au final, fera éclater au grand jour la vérité et le jugement dernier. Jésus, ici, ne condamne personne, jamais. Vous ne trouverez dans aucun évangile la trace d'une condamnation de sa part à l'encontre de telle ou telle personne. Ce qu'il condamne toujours, ce sont les attitudes, les pratiques, les comportements. Et il le fait parfois avec une grande rudesse. Mais à chacun et chacune, quel que soit son passé, il laisse un espace où évoluer, où changer, où se convertir. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs de nombreuses fois, puisque par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit qu'après la mort et la résurrection du Christ, une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l'obéissance de la foi dans le Christ. Ils avaient reconnu le signe de la résurrection. Jésus sait mettre en valeur des actes positifs. Il valorise ceux et celles qui repartent sur le chemin alors qu'ils s'égaraient dans des impasses. Par exemple, avec Zachée, lui aussi est un fils d'Abraham, dira-t-il. Avec un scribe, le Seigneur déclare « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Enfin, avec Lévi, le collecteur d'impôts qui se lève et le suit, et tous ceux qui sont restés prostrés, tous ceux qui restaient dans leur infirmité, leur aveuglement, leur boitement, tous ceux qui se complaisaient plus ou moins dans leur mal-être et qui se redressent, qui se remettent à vivre, qui se mettent à la suite du Christ, complètement retournés, transformés, convertis. La pratique de Jésus, eh bien, c'est de révéler aux hommes ce à quoi ils sont appelés, c'est-à-dire à vivre en fils et en fille de Dieu, et finalement à vivre selon les béatitudes que nous avons entendues à la Toussaint. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. À cette pauvre veuve, voilà donc qu'est proclamée cette bonne nouvelle, comme à cette autre femme qui, le lendemain, sacrifiera un vase de parfum très cher pour parfumer Jésus. Et le Seigneur déclarera « Amen, je vous le dis, partout sera proclamée la bonne nouvelle, dans le monde entier, on racontera ce qu'elle a fait en mémoire d'elle. » Deux pauvres femmes, dont l'une apparemment est riche, mais toutes deux, pour montrer leur amour de Dieu, ont su donner sans compter, sans arrière-pensée, sans se préoccuper du lendemain, sans chercher à assurer leurs arrières, même très minimes. Ces deux femmes, ainsi que la veuve de Sarepta dans la première lecture, ont donc une attitude de confiance profonde dans le Seigneur, confiance dans la vie. À chaque jour suffit sa peine et à chaque jour son bonheur. Confiance dans les autres. Si je n'ai rien, je sais qu'ils ne me laisseront pas tomber. Confiance en Dieu qui donnera la pluie pour arroser la terre, comme déclare Élie à la veuve de Sarepta. Avec cette attitude de cœur, on peut se séparer de tout ce qu'on a pour le donner. Et saint Marc a des mots très forts. La veuve, dit-il, a jeté dans le tronc son indigence, sa pauvreté, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle est donc dans la radicalité de l'Évangile, dans la folie de l'Évangile. Elle a tout donné, tout ce qui lui restait pour vivre. Folie aux yeux du monde, et pourtant, quelle foi, car cette femme se confie tout entière à Dieu, ce Dieu qui a donné pour loi à son peuple de prendre soin des plus vulnérables, la veuve, l'orphelin et l'étranger. Il y a donc de quoi toucher Jésus dans son comportement, lui qui est venu pour inscrire la loi d'amour dans les cœurs. De plus, le don entier sans retour de cette femme préfigure le don que Jésus fera lui-même de sa propre vie. Par les observations qu'il fait dans le temple, Jésus nous permet donc de voir la différence entre donner et se donner. Donner, c'est une chose, on donne quelque chose qui nous est extérieur, mais se donner, c'est tout autre chose, et c'est ce qu'a fait cette pauvre veuve. Ce n'est pas seulement deux piécettes misérables qu'elle donne, c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. À la limite, on peut ne rien donner de matériel, mais être tout entier donné aux autres. Par notre disponibilité, notre écoute, notre accueil, notre sourire. Cela suppose avoir conscience de son manque, de sa pauvreté personnelle, et de n'être pas comme les scribes et les riches, plein de soi-même. Mais qui ne l'est pas au moins un peu ? Tout donner, c'est savoir qu'on n'a rien ou presque, qu'on est surtout riche de ses limites, de ses misères, de son péché, et c'est vouloir garder un cœur ouvert, un cœur aimant, un cœur accueillant pour Dieu, pour les autres. Alors c'est clair, la béatitude, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. C'est un bonheur qu'on peut recevoir et vivre, même dans la misère matérielle, même dans la détresse. En fait, nous le savons bien, cette pauvreté qui se donne tout entière, qui est tout accueil, qui est toute ouverture, est difficile à vivre. Et sans cesse, nous sommes tiraillés entre cette part de la veuve généreuse qui est en nous et qui nous invite au don gratuit, à nous dépasser, et cette part du riche qui met de grosses sommes pour se faire remarquer, qui est tapis au fond de notre être. Le seul qui se soit donné totalement, parfaitement, pleinement, qui n'avait rien à donner mais qui s'est donné tout entier, c'est Jésus. Et finalement, cette pauvre veuve se donne comme Jésus. Sur la croix, le Seigneur a donné toute sa vie, tout ce qu'il était, pour nous. Puisse-t-il nous entraîner à sa suite et trouver en chacun de nous un disciple prêt à se mettre en route, à entrer profondément dans cette logique folle du don qu'est l'Évangile. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, entre les scribes, les riches qui cherchaient à se faire remarquer, et cette pauvre veuve qui est comme l'image anticipée de l'offrande de Jésus, où voulons-nous situer notre vie de disciple du Christ ? L'éventail est large et nous savons que le chemin de notre propre conversion sera toujours un passage. Quitter l'attitude superficielle des scribes et des riches pour grandir dans le don de nous-mêmes à Dieu et aux autres. Le Seigneur nous invite à quitter le souci du regard des autres et à agir en fonction du « qu'en dira-t-on ? Que pensera-t-on de moi ? Me trouvera-t-on assez grand, assez beau, assez fort, assez bien habillé ? Se rendra-t-on compte de mes nombreuses compétences dans tant de domaines ? Réalisera-t-on que je suis quelqu'un de bien ? Mais toutes ces attentes risquent de nous mener à ne vivre que sous un regard égocentrique et nous ne serons pas libres. Le Seigneur nous invite à quitter ce regard, à quitter le souci du regard des autres pour enfin vivre sous le regard du Père. Lui qui sait reconnaître la valeur réelle des efforts que nous faisons pour aimer, des petites piécettes que nous donnons. Vivre sous le regard du Père. Il ne suffit pas de le dire pour le vivre. Les scribes aussi savaient faire de beaux discours, mais vivre sous le regard du Père, c'est se rendre compte qu'on ne le vit jamais assez. C'est désirer le vivre un peu plus, sans trop se soucier des incompréhensions qui parfois nous entourent. c'est être libre dans l'Esprit Saint. C'est faire le premier pas sur le chemin du royaume. Qu'il soit le pas que nous ferons aujourd'hui. Amen.